Alors, comment parler de la gloire de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle évoque pour nous? Elle est peut-être loin de nos préoccupations, surtout au quotidien. Je pense qu'on ne va pas y penser tous les jours. Et c'est vrai que notre esprit est toujours occupé par bien des choses. Et ce nouveau confinement nous oblige aussi à revoir toutes nos organisations personnelles, professionnelles ou en église pour garder des liens. Et pourtant, quand j'ai entendu jeudi soir que les cultes continuaient à avoir le droit de se réunir, qu'on avait encore le droit de se réunir avec les mêmes conditions qu'avant, eh bien, je me suis quand même interrogée. Je me suis demandé si la confrontation qui a eu lieu avec certains mouvements catholiques au dernier confinement, si cette confrontation a laissé des traces, ou bien si en effet pratiquer son culte ferait partie des droits fondamentaux que le gouvernement ne tente pas de remettre en cause pour ce troisième confinement. Et puis, je me suis demandé aussi quelle réaction cela pouvait-il déclencher dans la population française. Risquons-nous une hostilité plus forte vis-à-vis des religions? Je pense notamment au métier de la culture qui aimerait bien rouvrir et refaire, nous redonner justement ces spectacles. Ou bien, au contraire, cela peut-il faire réfléchir sur nos besoins de base qui comportent aussi les besoins spirituels? En tout cas, nous pouvons rendre gloire à Dieu dimanche après dimanche, et de cela je me réjouis beaucoup. Parce qu'il est important de fortifier notre foi afin que notre espérance soit un témoignage pour les autres. Beaucoup de personnes se retrouvent seules. Entre le télétravail et la limite du couvre-feu, et puis plus le droit de voir personne, c'est compliqué. Alors même si c'est sur le palier de l'immeuble qu'on peut rencontrer quelqu'un, eh bien là, on peut partager un peu d'humanité et de compassion. Oui, nous avons un rôle à jouer au cœur de notre société. Faisons-en quelque chose. La gloire de Dieu se situe dans notre texte à un moment charnière, au milieu de deux mouvements inverses, celui du renoncement, de l'abaissement, et celui de l'élévation, de la vie éternelle et lumineuse. Alors pourquoi Jésus entre dans ce mouvement de descente et de remontée? Mettons-nous à sa place. Il a marché 3 ans sur les chemins de Galilée jusqu'à Jérusalem. Il a rencontré toutes sortes de personnes. Il a vu sortir de ses mains une puissance de guérison incroyable. Il a parlé d'une manière totalement nouvelle. Il a bousculé toutes les institutions religieuses. Il a découvert la présence de Dieu en lui. Il a appris à être en parfaite communion avec lui, qu'il révèle comme un père plein d'amour. Alors, quand il a eu la certitude que sa vie allait se terminer rapidement, et d'une façon finalement assez ignoble, une façon qui était réservée aux malfaiteurs, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a sans doute été extrêmement déçu. Tout ça pour mourir? Quel échec! Comment l'œuvre commencée peut-elle continuer? En tout cas, c'est ce qu'on pense quand on voit une personne mourir brutalement alors qu'elle est en plein dans une œuvre belle. Comment son œuvre va pouvoir continuer? Et j'ai pensé, alors c'est un petit peu de ma génération, mais j'ai pensé à l'assassinat de Yitzhak Rabin en Israël, qui travaillait au processus de paix Israël-Palestine. Et il a été en effet assassiné en plein dans ce mouvement qui allait en tout cas se développer. Alors on a été triste et déçu. Jésus a dû apprendre à renoncer. Renoncer à continuer son ministère et renoncer à sa vie. Et cela, il a pu le faire uniquement parce qu'il s'était mis dans les mains de Dieu. Il ne faut pas croire que c'était facile pour lui parce qu'on dit que c'est le Fils de Dieu. Non, c'est vouloir oublier sa partie humaine avec toutes ses émotions, ses doutes, ses peurs. Écoutons ce qu'il dit. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure de souffrance. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Il a pu accepter cet abaissement en faisant complètement confiance à Dieu. Il savait que toute son œuvre, ce n'était pas en son nom propre qu'il le faisait, qu'il l'avait faite. Ce n'était pas pour lui-même. Il savait qu'il était au service de Dieu, de son Père. Et sa communion avec ce Père lui a donné la force de lâcher prise, d'abandonner ce qui n'était plus dans ses mains et de comprendre aussi à quel moment cela allait se passer. Dans cette communion, il a eu confiance que la mort ne signait pas la fin de son ministère. Que la mort que nous considérons, nous, comme une fin inéluctable, n'est pas une fin pour Dieu, mais une étape vers la vie éternelle. Il a lâché prise. Et c'est ainsi qu'il illustre ce mouvement de renoncement par l'image du grain de blé. Le grain de blé doit tomber en terre, mourir, pour renaître, vivre et produire du fruit. Et après cette image, Jésus continue en disant « Qui aime sa vie la perdra, mais celui qui cesse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Alors c'est une phrase qu'il faut manier avec précaution. C'est une phrase qui est délicate à interpréter parce qu'elle a donné lieu à beaucoup d'excès, notamment dans le domaine du sacrifice. Ce n'est pas ce que demande Jésus. Souvenez-vous du premier commandement, Jésus nous demande de nous aimer nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, finalement, quel est ce renoncement dont il parle ? Jésus va bientôt mourir et cet événement va devenir fondamental pour notre foi. Et il sait que l'être humain se cache cette réalité de la mort. Il veut l'oublier. L'être humain voudrait pour toujours reculer ce moment-là. Et pourtant, comme il le dit pour lui-même, l'heure vient. Je peux citer l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et le désir d'immortalité qu'on retrouve finalement dans toute l'histoire humaine devient très présent à notre époque. Car nous avons de nombreux outils pour augmenter l'espérance de vie. On n'a jamais eu autant d'espérance de vie. On améliore la grande vieillesse, on améliore la manière dont le corps fonctionne. L'homme augmenté a déjà commencé avec les prothèses, par exemple, qu'on nous met dans le corps, les greffes qu'on peut faire, même le cœur, on peut mettre des piles, on peut greffer le cœur. En tout cas, on recherche aussi au cœur des cellules de notre corps ce qui pourrait empêcher leur vieillissement. Adam et Ève voulaient la vie pour toujours en prenant le fruit défendu. Et cela reste notre tentation profonde. Ce que nous dit Jésus, c'est accepter d'être mortel. Ne faites pas comme si la mort n'existait pas. Et surtout, surtout, n'ayez pas peur de la mort. Cette mortalité nous rappelle que nous serons toujours tentés d'être comme des dieux immortels, mais la mort nous garde à notre place. Elle nous oblige à une certaine humilité. Dès aujourd'hui, dans notre vie sur terre, nous avons peut-être découvert ce qu'apporte le renoncement, qui peut être vécu comme un temps d'arrêt. L'arrêt d'une course en avant à un moment donné pour discerner ce qui est nécessaire en remettant sa vie dans les mains de Dieu. On peut d'ailleurs ressortir un soulagement dans ce renoncement, un soulagement de ne plus être seul à porter le problème, soulagement de savoir aussi qu'on n'est pas indispensable à la marche du monde. En renonçant volontairement à certaines choses, on peut être amené à découvrir d'autres voies, d'autres chemins, plus en accord avec notre foi, car le confort de notre vie est un élément qui nous fait oublier Dieu. Et je cite aussi rapidement le renoncement à une croissance démesurée qui nous oblige à piller notre planète. Cela fait partie aussi de notre responsabilité. vous aurez un bon article dans Allo Mont Rouge sur ce sujet de Jacques-Frédéric Josserand. Combien de planètes faut-il pour que nous vivions ? Jésus est resté humble toute sa vie et nous appelle à cette humilité, non pas pour nous rabaisser et nous dire que nous ne valons rien, non, au contraire, car l'élévation qu'il nous propose suit immédiatement l'abaissement. Renoncer à faire comme si je maîtrisais tout permet de laisser de la place à Dieu. Et l'élévation que nous propose Jésus est durable. Au milieu de notre texte, il y a comme un parallèle de la transfiguration chez les autres évangiles. « Père, glorifie ton nom. » Une voix se fit alors entendre du ciel, « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. » Et là, le retournement s'articule autour de la mort de Jésus et de sa vie relevée, ressuscitée, redonnée par Dieu. Dieu glorifie son nom à travers la vie de Jésus, à travers tout ce qu'il a fait, à travers sa mort et sa résurrection. Toute la clé du renoncement, c'est justement de lâcher prise pour laisser Dieu agir, laisser Dieu nous élever. Dieu ne peut pas agir dans nos vies si nous la comblons toujours. La gloire qu'il nous offre n'a rien à voir avec la gloire que nous propose notre monde. Il suffit de voir certains champions ou certaines stars de chansons, de cinéma ou autres pour découvrir que leur vie n'a pas toujours été brillante, notamment, eh bien, après avoir été au sommet de la gloire, eh bien, ce sont des personnes souvent qui ont sombré dans la dépression, dans l'alcool, la drogue, pour compenser cette redescente quand on devient inconnu. La gloire promise par Jésus est d'un ordre spirituel. Il nous fait une promesse, celle de nous attirer à lui. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. Et cette élévation nous tire de nous-mêmes, nous permet de sortir un peu de nos lourdeurs, de ce qui entrave nos mouvements, élève notre regard pour nous mettre au service de Dieu, pour lui rendre gloire. Alors oui, la gloire de Dieu, nous avons entendu dans la fin de notre texte, est une lumière qui lui permet d'être connue dans le monde. Jésus nous élève vers cette lumière qui nous guide et nous habite. Soyons nous-mêmes des êtres de lumière, demande Jésus, pour témoigner de l'existence de Dieu et dire à Dieu seul la gloire. Amen.